Pourquoi est-ce que j'ai choisi la recherche de l'absolu? Premièrement, parce qu'on considère en général que Balzac est le principal représentant d'une écriture réaliste dans le roman du XIXe siècle, ce qui ne va pas sans poser énormément de problèmes, puisque je ne sais pas ce que c'est que le style réaliste balzacien, et je ne suis pas le seul à ne pas le savoir. Donc, on reviendra sur ce point-là. Deuxième raison, c'est que la recherche de l'absolu fait partie de ces romans balzaciens qui illustrent de manière assez intéressante le rapport de Balzac à l'écriture de fiction, à la fois rapport idéologique et rapport d'écriture, rapport stylistique. Pourquoi? La recherche de l'absolu, lorsque le roman a été publié en 1834, l'a été dans les scènes de la vie privée. Et lorsque la recherche de l'absolu a été intégrée à la comédie humaine, en 1846, le roman a été classé dans les études philosophiques. Et ce changement de place, n'est pas qu'anecdotique, hein, parce qu'il renvoie à cette conception que Balzac veut promouvoir du roman. Le roman n'est pas du roman, le roman c'est beaucoup plus que du roman. Je m'explique, hein. La fiction, selon Balzac, a une vocation didactique et elle a une vocation philosophique. En d'autres termes, Balzac s'arrange le plus souvent pour éviter l'usage du terme de roman lorsqu'il désigne ses propres œuvres. D'où le recours à la notion de scène. Hein, comme vous le savez, dans les études de mœurs, le premier grand étage de la comédie humaine s'est divisé en six grandes séries de scènes. Celle de la vie privée, celle de la vie politique, celle de la vie militaire, celle de la vie de campagne, celle de la vie parisienne, celle de la vie de province. Et la comédie humaine est divisée en trois séries d'études, les études de mœurs, les études philosophiques, les études analytiques. Pourquoi le choix du mot scène et du mot étude? C'est pour ne pas employer le terme de roman, mais c'est aussi pour désigner l'écriture de fiction comme ayant une portée résolument liée à l'analyse du monde moderne, à la critique du monde moderne, à l'interprétation du monde moderne et au dévoilement du sens global du fonctionnement de la société, de l'histoire et de l'unification du savoir. Quand vous relisez l'avant-propos de la comédie humaine, c'est exactement la ligne que Balzac ne cesse de défendre. Donc la recherche de l'absolu, passant des scènes de la vie privée aux études philosophiques, montre bien que vous allez avoir à la fois un roman qui va relever des études de mœurs et un roman qui va relever des études philosophiques. Il n'y a strictement aucune contradiction entre ces deux aspects. Il y a au contraire imbrication profonde. Alors, je vous ai mis au tout début un rapide résumé de la recherche de l'absolu pour vous en rappeler l'intrigue. Et je vous propose de commencer tout de suite par, alors, un de ces passages considérés comme étant canoniques dans le style balzacien et le style réaliste en général, c'est-à-dire le portrait. Donc, le texte numéro 1, vous avez le premier portrait du héros du roman, Balthazar Claës, et ensuite, on comparera avec les textes 3 et 4 qui s'inscrivent plus loin dans l'intrigue du roman, dans le développement du cours du roman, et qui sont ceux de la déchéance physique de Balthazar Claës. Donc, comme je vous l'indique, j'ai mis en gras un certain nombre de passages sur lesquels on peut insister un peu plus, pour montrer quel est le fonctionnement, dans ce cas précis, de l'écriture balzacienne du portrait. Bon, simple rappel, vous savez que le portrait balzacien, en général, obéit à une loi fondatrice qui est la physionomie, c'est-à-dire la mise en correspondance, hein, des traits extérieurs et des caractéristiques intérieures du personnage selon un principe de lisibilité réciproque. Bon. Donc, regardez le premier paragraphe, hein. Sa haute taille se voûtait légèrement, soit que ses travaux l'obligeassent à se courber, soit que l'épine dorsale se fût bombée sous le poids de sa tête. Il avait une large poitrine, un buste carré, mais les parties inférieures de son corps étaient grêles, quoique nerveuses, et ce désaccord dans une organisation évidemment parfaite autrefois intriguait l'esprit qui cherchait à expliquer par quelques singularités d'existence les raisons de cette forme fantastique. Donc, premier élément du portrait dit réaliste, il propose une énigme à l'observateur, laquelle se doit d'être interprétée. Mais nous avons déjà des éléments qui peuvent nous orienter quant à la résolution de la dite énigme. Les travaux qui l'auraient obligé à se courber, et l'épine dorsale se fût bombée sous le poids de sa tête. En d'autres termes, l'apparence physique de Balthazar Claës serait dépendante de son activité intellectuelle. Le corps porterait la marque, en quelque sorte, de l'excès cérébral. Continuons. Son abondante chevelure blonde peu soignée retombait sur ses épaules à la manière allemande, mais dans un désordre qui s'harmonisait à la bizarrerie générale de sa personne, mettait en rapport fantastique et bizarrerie, bien entendu. Son large front offrait d'ailleurs les protubérances dans lesquelles Gall a placé les mondes poétiques. Ses yeux d'un bleu clair et riche avaient la vivacité brusque que l'on a remarquée chez les grands chercheurs des causes occultes. Donc vous voyez qu'à la fin du premier paragraphe du portrait, en réalité, le personnage a déjà été situé, interprété, caractérisé, non seulement par l'excès, je mets des guillemets à excès, de l'activité intellectuelle, hein, l'excès cérébral, mais il est caractérisé aussi par les mondes poétiques selon la théorie de Gall. Vous savez, c'était la théorie des protubérances du crâne qui était censée indiquer quelles étaient les capacités intellectuel de tel ou tel individu, hein, c'est, nous en avons une trace dans la langue, hein, quand on dit de X ou Y qu'il a la bosse des maths, ça vient très directement de cette théorie de Gall. Hein. Bon. Donc les mondes poétiques, alors, on va faire un petit arrêt sur image tout à l'heure à propos de l'expression monde poétique chez Balzac, et grand chercheur de causes occultes. En d'autres termes, d'entrée de jeu, le personnage est situé sur un plan de l'activité intellectuelle qui le distingue du commun des mortels, qui le place au-dessus de l'humanité moyenne et dans un rapport au réel qui est celui de la quête du sens caché, du sens profond de l'univers. Le monde poétique chez Balzac, alors le terme de poésie chez Balzac a une polysémie tout à fait considérable, mais ici, cela désigne le plan supérieur de la connaissance dans lequel l'unité fondamentale et l'harmonie première apparaissent, hein. Comprenez monde poétique comme étant le monde des harmonies. Je n'insiste pas trop, parce que ça nous ferait déborder, on peut peut-être le réserver pour la discussion tout à l'heure. Hein. Comme vous le savez, l'harmonie est un des concepts clés de la pensée et de la philosophie romantique. Hein. Et c'est un des points de jonction que vous avez entre Balzac et le romantisme, considéré comme quête de cette unité fondamentale. Ce qui fait que Balthazar Claës, dans sa recherche de l'absolu, se situe parfaitement dans cet univers de référence idéologique et philosophique qui est celui du romantisme tel que les romantiques français, et là, encore une fois, je traite Balzac comme romantique sur ce point-là, hein, tel que les romantiques français ont compris ce qui avait été l'entreprise philosophique du romantisme allemand. Hein, c'est-à-dire celui de la nature-philosophie, hein, de la philosophie de la nature, dont vous avez peu d'exemples théoriques en France, mais les romantiques français sont allés chercher du côté du romantisme allemand pour cette nature-philosophie. Donc on reviendra tout à l'heure sur la notion d'absolu avec un autre texte. Donc vous voyez, si vous prenez maintenant la suite du portrait, regardez uniquement ce que j'ai mis en gras, hein. Sa peau se collait sur ses os comme si quelque feu secret lutte incessamment desséché. La flamme qui dévorait son âme, ses yeux étincelants dont le feu semblait également accru par la chasteté que donne la tyrannie des idées et par le foyer intérieur d'une vaste intelligence, et, en conclusion de cette première page, la magnifique monstruosité de sa physionomie. Donc vous voyez que la référence permanente au feu va organiser la suite du portrait. Ce feu, c'est évidemment la métaphore de la quête intellectuelle, de l'inspiration, du sublime, du génie, etc. Hein? Donc, chez Balzac, comme vous le voyez, le portrait dit réaliste est en réalité complètement informé par des concepts philosophiques, d'une part, et par un réseau de métaphores qui elles-mêmes sont liées à une conception philosophique. Prenez la suite. Donc, vous voyez que dans l'organisation du portrait, comme très souvent chez Balzac, on va procéder par conclusions partielles qui à chaque fois mettent l'accent sur le sens du portrait. Ça sert en quelque sorte de guide de lecture, hein, d'aide pour le lecteur, ce qui est à mettre en rapport avec ce que je disais tout à l'heure sur la fonction bien connue, la fonction didactique du roman balzacien. Et vous en avez un magnifique exemple avec « Il semble que les bénéfices secrets, que les bénéfices des travaux secrets du savant soient tellement éloignés de ce que l'état social craigne de compter avec lui de son vivant, il préfère s'acquitter en ne lui pardonnant pas sa misère, ses malheurs. » Le passage ici au rapport entre le génie et la société, présenté comme une vérité générale, présenté comme un élément de savoir sur le fonctionnement du monde moderne, dont le romancier a pour mission de le dire, de l'exprimer, de le faire comprendre, de le faire savoir. Donc, comme à peu près toujours chez Balzac, hein, vous voyez, le portrait va aboutir à un élément de connaissance générale sur le sens général du monde, de la société, de l'histoire, etc. Hein. Il y a ici à la fois une anthropologie à l'œuvre et une sociologie à l'œuvre en même temps qu'une philosophie. Retour de la mention du poétique. Jamais Balthazar Claës n'avait été plus poétique qu'il ne l'était en ce moment. Là, vous avez une nuance supplémentaire du terme poétique par rapport à l'usage que nous avions à la page précédente. Poétique qui va conserver le sémantisme précédent, mais va lui en ajouter un nouveau. Jamais il n'avait été plus poétique, entendez par là, jamais il n'avait été plus digne d'être un personnage de littérature. Hein? Jamais l'entreprise romanesque n'avait été à ce point sollicitée par un personnage de ce type. Donc, le roman doit dès lors se mettre au diapason intellectuel et idéologique du personnage tel qu'il a été ici défini. Alors, ce qui permet d'écarter les interprétations que l'on a assez souvent à propos de Balthazar Claës, qui serait l'un des types du savant fou hein, dans la littérature du XIXe siècle. Vous voyez qu'on se situe à quelque chose sur un plan qui est en réalité supérieur, beaucoup plus intéressant que cette simple réduction que l'on opère très souvent à propos de la recherche de l'absolu, roman qui illustrerait l'incompatibilité du génie et de la société, le danger de l'obsession, de la monomanie, etc. Non pas que cela soit absent du roman, hein, cela fait partie du système du roman, mais vous voyez que le point de départ, en réalité, est autre. D'où la conclusion du portrait. À un prêtre, il lui parut plein de la parole de Dieu, un artiste lui saluait comme un grand maître, un enthousiaste lui prit pour un voyant de l'église Vendelborgienne, hein. Et ce qui n'est pas dit, mais qui est impliqué, un romancier lui prit comme sujet privilégié. Hein. Si j'écris ce portrait, c'est parce que Balthazar Claës est en quelque sorte le type même du héros romanesque des temps modernes. Non pas parce qu'il est marginal, non pas parce qu'il est génial, mais parce qu'il est le parangon de toute une série de caractérisation qui le situe au niveau du savoir qui est visé par l'entreprise romanesque. D'où le contraste avec la déchéance de Balthazar Claës. Au fur et à mesure que le roman avance, on a en quelque sorte la chute de la maison Claës. On a les échecs successifs du savant qui, plus il croit s'approcher de la découverte de l'absolu, plus en réalité il s'en éloigne. Et vous allez avoir là un admirable principe balzacien, c'est que la dépense de l'énergie intellectuelle qui est mise au service de cette quête impossible de l'absolu se traduit concrètement par la ruine matérielle de la maison Claës. Parce que Balthazar Claës va dépenser 7 millions tout au long du roman pour financer ses recherches. Alors, 7 millions en termes monétaires balzaciens, vous multipliez par un minimum de 3 pour avoir l'équivalent en euros. C'est entre 3 et 4. Donc, il a dépensé plus de 21 millions d'euros pour essayer de parvenir à la découverte de l'absolu. Donc, et c'est là que vous voyez que la recherche philosophique et la scène de la vie privée se rejoignent parfaitement, puisque vous avez une équivalence, en quelque sorte concrète, qui est donnée sur le plan monétaire de la dépense intellectuelle, de la dépense du fluide intellectuel qui est requise pour la découverte de l'absolu. Donc, la déchéance de Balthazar va être une déchéance en quelque sorte double. C'est la déchéance de la maison Claës, mais lui-même, en fait, ne pense à l'argent que comme conversion. Et il ne pense qu'à convertir l'argent en achat de produits chimiques, de matériel, etc. etc. Le feu intérieur que nous avions vu tout à l'heure, la flamme sacrée, va se traduire concrètement dans le roman par l'activité principale à laquelle se livre Claës pour essayer de trouver l'absolu dont on va parler juste après, c'est-à-dire la combustion. Il fait constamment chauffer des produits chimiques pour les décomposer. Donc, le feu intérieur qui se traduit en combustion chimique, laquelle se traduit en combustion de l'argent. Donc, la déchéance de la maison Claës, la combustion permanente, va avoir des effets physiologiques sur le personnage, les traits vont être marqués, et là, on va faire appel à deux réseaux à la fois notionnels et métaphoriques, qui vont être ceux du destin tragique, c'est ce que vous avez dans la première phrase en gras, texte 3 et 4, cet homme de génie muselé par la nécessité, se condamnant lui-même, offrait un spectacle vraiment tragique qui eût touché l'homme le plus insensible. Et vous allez avoir la référence au mythe prométhéen, Prométhée condamné pour avoir dérobé le feu du ciel aux dieux. Regardez la fin du paragraphe. Il avait soulevé le monde comme un titan, et le monde revenait plus pesant sur sa poitrine. C'est évidemment à la fois une référence au mythe des titans en général et au mythe de Prométhée en particulier. Donc, la déchéance de Balthazar s'inscrit littérairement dans une sorte de reprise des grands drames fondateurs de l'humanité. C'est là que vous avez une nouvelle caractéristique du réalisme balzacien. Le réalisme balzacien sera toujours dramatisé. La notion de drame est capitale chez Balzac. C'est un des termes qu'il utilise pour ne pas utiliser le terme de roman. Je vous renvoie à la première page du Père Goriot, lorsque Balzac s'adresse à un lecteur qui est en réalité une lectrice idéale, au vous qui vous tenez ce livre d'une main blanche et vous asseyez dans un fauteuil moelleux en vous disant peut-être cela me distraira-t-il, détrompez-vous, ce livre est un drame. Pourquoi ? Parce que le drame, c'est à la fois la référence générique et la référence esthétique fondamentale du roman balzacien. Tout va fonctionner selon des principes d'opposition dramatique, d'opposition qui pourront aller jusqu'à l'oxymore, grande figure du style et de la pensée romantique, comme vous le savez. Mais c'est aussi un moyen de donner à la fiction la dignité qu'elle semble mériter à Balzac dans les temps modernes. Le roman se doit d'être un drame. À mettre en rapport aussi au fait que l'histoire avec un grand H, l'histoire est un drame. Et qu'elle l'est au moins depuis la Révolution française. Donc, la déchéance de ce titan foudroyé, que vous allez voir préciser dans un passage un peu postérieur à celui-ci. Donc, je vous renvoie à la fin du texte 4. Donc, le grand passage que j'ai mis en gras, dans le paragraphe qui commence quoi, « Quoiqu'une pensée forte anima ce grand visage, tantôt il y apparaissait un espoir qui donnait à Balthazar l'expression du monomane, tantôt l'impatience de ne pas deviner un secret qui se présentait à lui comme un feu follet. » Vous voyez la reprise de la métaphore du feu, y mettait les symptômes de la fureur, puis tout à coup un rire éclatant trahissait la folie, enfin la plupart du temps l'abattement le plus complet résumait toutes les nuances de sa passion par la froide mélancolie de l'idiot, quelque fugace et imperceptible que fussent ses expressions pour des étrangers, elles étaient malheureusement trop sensibles pour ceux qui connaissaient un Claes sublime de bonté, grand par le cœur, beau de visage, et duquel il n'existait que de rares vestiges. Donc, vous voyez que le portrait, le dernier portrait de Balthazar, ici, va mettre l'accent sur quoi? Effectivement, sur la déchéance physique, sur la ruine physiologique, mais qui ne fait que traduire une ruine mentale, une ruine intellectuelle, une ruine de la raison, et c'est uniquement dans ce passage-là que vous avez le terme de monomane. La monomanie de Balthazar Claes n'est pas définitionnelle du personnage, elle n'est que la dégradation du personnage. Donc bien distinguer la passion légitime de la quête scientifico-philosophique de sa dégradation en folie monomaniaque, ce que vous avez à la fin, mais qui intervient au terme d'un processus dans le temps de cet épuisement du personnage lié à l'impossibilité de parvenir au but, de toucher le but de la quête. Donc, vous voyez que le terme de passion, évidemment, doit se penser et s'écrire avec un P minuscule et un P majuscule. C'est la passion au sens christique de Balthazar Claes que vous trouvez ici. Alors, cet absolu, je vous renvoie donc au texte 2, l'absolu. Qu'est-ce que c'est que l'absolu? Alors, l'absolu est présenté comme étant le principe unitaire de la création, c'est-à-dire qu'au début était l'un et toute la création est un multiple de cet un primitif, et donc pour comprendre la création, il faut procéder à rebours du multiple vers l'unité. Alors, cette idée n'est évidemment pas une idée spécifiquement balzacienne, c'est une des grandes idées de la philosophie romantique. Je vous rappelle en particulier que dans la nature, comme dans l'art, pour ne me référer qu'à un seul des philosophes du romantisme allemand qui est Schelling, l'art et la nature procèdent d'un absolu premier, lequel est lisible dans la nature, lequel est lisible dans l'art, et que toute l'entreprise d'investigation de la nature par le savoir ne vise pas à autre chose qu'à aller tenter de retrouver la trace ou la marque de cette unité primordiale. Et que c'est ce que Schelling traduit autrement en définissant l'œuvre d'art, comme vous le savez, l'œuvre d'art c'est de l'infini dans du fini. Donc l'œuvre d'art dans sa globalité matérielle, concrète, interprétable, visible, décodable si j'ose dire, contient cet infini, lequel est l'unité première de la création. Bon. Donc, Balzac hérite, bien entendu, de toute cette toute cette conception de l'absolu qu'il place dans le roman pour la spécifier dans l'activité de Baltazar Marquez comme étant une quête chimique et absolument pas alchimique. Vous trouvez encore des interprétations de la recherche de l'absolu dans lequel on vous dit que Balzac a fait de Baltazar Marquez une sorte d'alchimiste des temps modernes. Le roman dit exactement le contraire. Il y a une ou deux phrases dans le roman qui récusent complètement l'idée même de l'alchimie. Bon. Non, cette chimie moderne qui est héritée de Lavoisier pour être au plus près de l'histoire des sciences, cette chimie dont Balthazar Claës se fait ici le héros, R-A-U-T et R-O-S, hein, vise, donc vous le voyez, à parvenir en réalité à comprendre ce qui est le principe même de la pensée. Hein, la pensée chez Balthazar est une quête de la pensée. Hein, ce qui explique d'ailleurs peut-être l'échec. D'ailleurs, hein, que c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Bon. Donc, et dès lors, tout doit être pensable en fonction d'un certain nombre de principes simples qu'il s'agit d'unifier dans tous les ordres de la création. Et dès lors que l'on aura compris la chimie des corps naturels, on doit pouvoir comprendre l'individu, on doit pouvoir comprendre l'homme. C'est ce que vous avez en gras, hein, regardez. L'électricité ne se manifesterait pas en l'homme, par des combinaisons plus variées qu'en tout autre animal. N'aurait-il pas des facultés plus grandes que toute autre créature pour absorber de plus fortes portions du principe absolu, et ne se les assimilerait pas-t-il pas pour en composer dans une plus parfaite machine sa force et ses idées? Je le crois. Hein? Donc, ce que Balthazar Claës recherche, c'est pas simplement la matière première au sens de la première matière, hein, mais c'est de comprendre ce qui est à l'origine même des êtres, et en particulier de l'homme. Donc, Balthazar Claës entend se placer sur le plan même de Dieu. Ce qui explique ce dialogue avec sa femme qui, évidemment, va s'épouvanter, hein, de cette monstrueuse, à ses yeux, entreprise qui viserait à faire égaler le savant à Dieu. Donc vous voyez encore une fois, hein, que la question de l'absolu, qui est au cœur philosophique du roman, hein, va être exprimée selon un vocabulaire scientifique qui se veut le plus concret, le plus matériel, le plus réaliste possible, mais qui en réalité renvoie à une interprétation philosophique générale de l'unité de l'univers. J'en viens à mon dernier texte, qui est le début du roman, mais j'ai voulu terminer par le début du roman, par la grande description initiale. Vous le savez, on dit toujours que les grands romans réalistes de Balzac commencent par une longue description du cadre, du milieu, etc. Hein, et ce, depuis Le Père Goriot, hein, bon, qui paraît fin 34 en revue et 35 en volume. Donc, et la même année dans La Recherche de l'Absolu, il pratique de même avec la grande description de Douai. Bon. Alors, ici encore, ce que j'aimerais montrer, c'est que la description dite réaliste de la ville de Douai va être une description parfaitement idéologisée et qui annonce ce qui va être la clé du roman, mais cette annonce n'est en réalité compréhensible qu'une fois le roman achevé. Et c'est aussi pour ça que je voulais terminer par la description de Douai. Alors regardez, ce qui est dit, décrire Douai, qu'est-ce que ça veut dire pour Balzac? Cela veut dire non pas simplement décrire une ville, non pas simplement décrire une province, la Flandre en l'occurrence, mais ça va être de d'expliquer comment les mœurs et les mentalités flamandes sont le produit de l'histoire. Comment le rapport des Flamands à la vie, au monde, à leur environnement, comment le regard flamand sur le monde a été déterminé par leur histoire spécifique, et par conséquent, il répond à la question « qu'est-ce que c'est qu'être flamand ?» ce qui va beaucoup plus loin, « qu'est-ce que c'est qu'être bourgeois ?» hein ? Donc, regardez le passage central de la première page. Aussi est-il presque impossible de ne pas être pris d'une espèce d'attendrissement à la peinture de la vie flamande quand les accessoires en sont bien rendus. Peinture de la vie flamande, c'est-à-dire ce que je suis en train de faire. Hein ? Pourquoi ? Peut-être est-ce, parmi les différentes existences, celle qui finit le mieux les incertitudes de l'homme. Elle ne va pas sans toutes les fêtes, sans tous les liens de la famille, sans une grasse aisance qui atteste la continuité du bien-être, sans un repos qui ressemble à de la béatitude, mais elle exprime surtout le calme et la monotonie d'un bonheur naïvement sensuel où la jouissance étouffe le désir en le prévenant toujours. Quelque prix que l'homme passionné puisse attacher au tumulte des sentiments, il ne voit jamais sans émotion les images de cette nature sociale où les battements du cœur sont si bien réglés que les gens superficiels l'accusent de froideur. Qu'est-ce que c'est que la vie flamande ? C'est un modèle d'harmonie, mais sur un plan inférieur, qui est le plan de la vie matérielle. C'est l'harmonie bourgeoise par excellence, celle qui vient de la prospérité, celle qui vient du progrès matériel. Et donc, cette harmonie dans laquelle baigne la Flandre, du point de vue balafien, vrai ou pas vrai, ça n'a aucune importance, hein, mais vous voyez que c'est un postulat qui vous est présenté au début du roman. Cette harmonie flamande, fondée sur l'immédiate satisfaction du désir, explique comment un Balthazar Klaas est évidemment hors de ce champ-là. Alors que lui, son existence, elle est dynamisée par un désir sans cesse inassouvi, qui est celui de la découverte de l'absolu. Hein ? En d'autres termes, la Flandre jouit du bonheur du relatif. Balthazar Klaas est torturé par le désir de l'absolu. Il est donc totalement en disharmonie avec ce monde harmonieux qui est celui de la Flandre. Et donc, vous voyez bien qu'il n'est pas question de la Flandre, en réalité. Il est question du monde social, concret, moderne, du XIXe siècle, au nom d'une spécificité ou d'une originalité supposée de la Flandre. Vous n'êtes pas dans le réalisme, vous êtes dans un système dramatique d'opposition entre le milieu et l'individu. Donc, regardez la fin du paragraphe. « La vie adoptée par ce peuple essentiellement économe remplit bien les conditions de félicité que rêvent les masses pour la vie citoyenne et bourgeoise. » Et là, vous voyez, là c'est la formulation idéologique qui vous donne la clé de la description initiale de Douai. « La matérialité la plus exquise est empreinte dans toutes les habitudes flamandes. » Et cette matérialité, c'est celle, justement, de l'harmonie superficielle du multiple relatif. Alors que Balthazar Klaas, lui, veut chercher l'origine commune, primordiale, unitaire, une harmonie qui se situe sur un plan sublime, par opposition au plan concret et matériel du monde moderne. D'où ce que vous allez avoir dans le dernier paragraphe, hein, page suivante. Après s'être assimilé par la constante économie de sa conduite, les richesses et les idées de ses maîtres ou de ses voisins, ce pays, si nativement terne et dépourvu de poésie, et vous voyez pourquoi Balthazar Klaas était éminemment poétique, se composa une vie originale et des mœurs caractéristiques sans paraître entachées de servilité. L'art y dépouilla toute idéalité pour reproduire uniquement la forme. Donc les splendeurs de la Flandre sont des splendeurs formelles. Ce n'est pas de l'art au sens le plus profond qui est celui, le sens philosophique que Balzac veut pour l'œuvre d'art. Aussi ne demandez pas à cette patrie de la poésie plastique, ni la verve de la comédie, ni l'action dramatique. Hein. En d'autres termes, la Flandre n'est pas digne de roman. Hein. On ne peut pas dramatiser la Flandre autrement que par le drame qui va opposer l'individu de génie Balthazar à cet environnement. Ni les géardies de l'épopée ou de l'ode, ni le génie musical, mais elle est fertile en découvertes, en discussions doctorales qui veulent et le temps et la lampe. Tout y est frappé de la jouissance, au coin de la jouissance temporelle. L'homme y voit exclusivement ce qui est. Voilà, tout est dit. Alors que Balthazar veut aller au-delà de ce qui est. Il veut aller derrière ce qui est. Il veut aller du côté de l'idée avec un I majuscule, qu'on pourrait comparer à l'idée platonicienne si vous voulez. Hein, dépasser le niveau de l'apparence pour aller du côté du sens. Alors donc, le roman, et je termine là-dessus, va se partager et se, en quelque sorte, se compléter de la manière suivante, du côté des mœurs, du privé, du réalisme au sens concret du terme, ce sera la matérialité de la vie de famille détruite par Balthazar. Ce sera du côté de l'exaltation du relatif spécifique, selon Balzac, de la vie flamande, qui sera dramatiquement opposée à l'idéal du savant philosophe, qui lui sera du côté de la vraie poésie. On a donc une opposition entre deux niveaux poétiques. Par conséquent, le réel balzacien, dans la recherche de l'absolu, mais on pourrait l'étendre à d'autres romans, se caractérisera de la manière suivante. Il y a le réel qui relève de l'analyse sociale, économique, politique. Autrement dit, le réel qui est interprétable selon les discours du savoir, et il y a un supra-réel, qui est en réalité la clé du réel, qui est interprétable par le savoir poétique, qui n'est pas autre chose que le savoir philosophique. Il n'y a donc pas exclusion mutuelle, il y a complémentarité, il y a un jeu permanent de Balzac sur ces niveaux du réel et du surréel. Enfin, sur, vous mettez un trait d'union entre sur et réel. Hein, c'est pas le surréalisme. Hein, ou le supranaturel. Voilà pourquoi le roman balzacien sera toujours imprégné de philosophie. Et on pourrait dire, au fond, que les différences qu'on peut établir dans les romans de Balzac le seront selon la plus ou moins grande présence au niveau des significations de cette philosophie. Voilà les deux ou trois petites choses que je voulais souligner. Merci.